be proud of you, because
we will be happy to help you make money.
Do you speak English?
My English is very bad, but I speak well as Spanish.
When you told us that
À quel point l'anglais est-il important pour nous? Est-ce qu'il faut tout changer dans le système scolaire et avoir des cours beaucoup plus intenses dès le primaire? Ou encore à quel point les voyages linguistiques sont importants pour enrichir et son apprentissage de la langue et la diversité culturelle que l'on peut voir? 92% des Français estiment qu'il est nécessaire de savoir parler anglais, que ce soit au travail, pour les études ou dans le quotidien. Pour autant, seulement 20% jugent leur niveau d'anglais satisfaisant. C'est-à-dire qu'il y a 80% des Français qui se considèrent complètement nuls en anglais. Partant de ce constat, on a décidé de réunir 5 Français qui ont tous un rapport à la langue et un niveau d'anglais différent. Au crayon, ça fait longtemps qu'on a envie de vous proposer cette vidéo, et quand on en a parlé à EF, ils ont eu tout de suite envie de collaborer avec nous pour cette vidéo. EF, ils proposent des séjours linguistiques pour parfaire l'apprentissage de la langue. D'ailleurs, à ce sujet, on a une petite surprise en milieu de vidéo, je ne vous en dis pas plus. Avant de commencer la vidéo, on a demandé aux 5 participants de faire un test d'anglais. Un test que EF propose sur son site et que vous pouvez faire vous aussi gratuitement. Petite précision, ils connaissent désormais leur niveau d'anglais, mais ne connaissent absolument pas le niveau des autres. Et le but de cette vidéo va être justement de découvrir quel est le niveau des autres. À travers différentes séquences qui vont permettre de savoir qui parle très bien anglais et qui parle un peu moins bien anglais, ils vont devoir se positionner et déterminer lequel a le moins bon niveau. Et vous saurez vous deviner qui parmi eux est le plus mauvais en anglais.
J'utilise l'anglais couramment dans mes études / dans mon travail.
Bah alors couramment je dirais pas, mais forcément maintenant dans le monde actuel on est obligé de savoir parler anglais. Du coup bah j'ai forcément des cours d'anglais. Et je sais que c'est important d'apprendre l'anglais, mais... Je m'appelle Loïc Giroux, j'ai 20 ans et je suis à Lyon en licence gestion management. Je vais aller en école de commerce l'année prochaine. Au niveau d'anglais, je crois que j'ai utilisé le terme lambda, donc ça a l'air pas forcément fou, mais je suis pas non plus illettré, quoi.
Bah moi je suis assez d'accord sur le fait qu'il faille utiliser l'anglais beaucoup aujourd'hui. Moi en ce qui me concerne, je l'utilise pas mal dans mes études parce que je suis en littérature comparée et on a besoin de 2 langues pour comparer des œuvres. Et moi en l'occurrence c'est français-anglais ou anglais-espagnol. Donc j'ai besoin de l'anglais aussi.
Moi je m'appelle Gauthier, j'ai 22 ans, je vis à Paris, je suis étudiant et je travaille aussi à côté en tant que professeur de français dans un collège. Par rapport aux autres, je pense être dans une moyenne à peu près correcte parce que je pense qu'on parle de mieux en mieux anglais aujourd'hui.
Moi je fais des études de communication, donc j'ai besoin de l'anglais, mais c'est pas pour autant que je maîtrise l'anglais. Et en plus, là je cherche une alternance en ce moment et on me demande tout le temps de savoir parler anglais.
Je m'appelle Mélodie, j'ai 19 ans et je suis en études de communication à Nantes. Je trouve que c'est pas très ludique et que la façon d'apprendre, en tout cas dans l'école que je fais, c'est assez descendant et c'est toujours travailler pour les examens et pas de façon à apprécier l'anglais.
Moi je suis en études de relations internationales et avec du russe aussi. Mais du coup, quand on étudie que ce soit la politique étrangère ou les questions, tout ce qui touche à la société ou aux relations internationales, on a toujours des sources en français, mais la majorité sont en anglais. Donc c'est vraiment important de savoir le lire et aussi de savoir le résumer rapidement pour avoir une compréhension et une analyse plutôt rapide sans y passer 3 jours, quoi. Donc ouais, je dirais que c'est important.
Je m'appelle Nadia Golochoglou, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en Master 1 de Relations Internationales et de Russe à l'INALCO. Donc les langues, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours.
Et moi, je travaille dans le secteur du tourisme, donc forcément, on est amené à parler avec des écoles locales, etc. Donc on est obligé de savoir parler anglais.
Je m'appelle Elsa, j'ai 25 ans, je suis responsable du programme Fidélité dans une entreprise qui travaille dans le tourisme.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on pousse à cet apprentissage de l'anglais? Est-ce que c'est correctement effectué, que ce soit à l'école ou même ailleurs dans la société de manière générale?
Alors moi je trouve que pour le coup dans l'éducation on va être très mauvais. On va pas forcément nous apprendre à savoir se débrouiller dans un milieu où on est censé parler anglais. Par contre tout ce qui va être à l'écrit, etc. Là pour le coup oui, on va être très bon. Je pense que toi aussi... dans tes études?
Moi je trouve qu'on apprend vraiment de façon très descendante, où on travaille pour les examens et par exemple, ouais. Nous on s'entraîne tout le temps à des compréhensions orales, à des expressions écrites, etc. Et en fait, c'est sous le format souvent de lettres ou de mails. Et en fait, on est entraîné qu'à ça. Et moi, du coup, j'ai un peu de vocabulaire concernant la com, mais je suis nulle en anglais, quoi.
Ouais, donc on va être bon à l'écrit, à des compréhensions, mais dans le bain, on va être très mauvais.
Ouais, moi je suis assez d'accord, il faudrait peut-être un petit peu plus mettre l'accent sur l'expression orale, que ce soit en classe, avec les professeurs ou même avec des natifs dans la vie de tous les jours.
Mais d'un autre côté, je trouve qu'en classe, on n'est pas forcément super à l'aise de parler devant tout le monde en anglais.
C'est ça.
Ouais. Et peut-être qu'on est par trop gros groupe
pour parler anglais des fois. C'est ça, il y a beaucoup trop d'élèves dans la classe. Déjà, pour le professeur, c'est intenable de pouvoir donner la parole à tout le monde. puis même ça n'encourage pas forcément les élèves ou les étudiants même à prendre la parole en classe, puisque il y a soit la peur du jugement, la peur de se tromper, et la timidité tout simplement aussi.
Et puis forcément dans une classe où on est 30, on n'a pas tous le même niveau. Moi je me souviens quand j'étais au collège, tout bêtement, il y avait les plus forts, tout le monde les regardait, était émerveillé, et t'avais les plus nuls qui n'osaient pas parler, on était assis au fond de la classe, donc c'est pas forcément facile avec les niveaux différents quoi, dans un grand groupe classe.
Ouais. Mais justement pour revenir sur le fait qu'on n'ose pas trop parler, je me demande si c'est pas parce que justement à l'école on ne nous pousse pas à faire ça. Enfin, tu vois, si on commence plus tôt, je sais pas, au primaire, on pourrait commencer bien plus tôt et du coup ça devient quelque chose de naturel. Mmh. Et du coup on ose forcément plus prendre la parole et forcément notre niveau devient meilleur. Quoi.
Je pense que le système français n'est pas nécessairement bon pour ça, pour gagner en assurance en fait. On est toujours à pas nécessairement réprimer l'erreur, mais de noter l'erreur en fait, plutôt que d'encourager à justement, ok, prends la parole, si tu te trompes, c'est pas grave, au moins tu auras appris. Et c'est vraiment ça qui est important dans l'apprentissage, c'est on apprend de ses erreurs, et si on ne s'autorise pas ou si on n'est pas autorisé par les autres à faire des erreurs, on ne peut pas vraiment progresser puisqu'on se bride soi-même. Et quand on est dans le grand bain, que ce soit en voyage que ce soit scolaire ou même juste pour le tourisme ou autre, on n'ose pas parler ou on n'ose pas se débrouiller parce qu'on n'a pas le vocabulaire et on n'a jamais été entraîné pour ça.
C'est un peu ça le problème.
Oui, on n'ose pas parce que justement, on a plus été blâmé pour nos erreurs plutôt que justement avoir été encouragé pour ce qu'on a fait de bien.
Ouais.
Ou même être encouragé à se tromper.
C'est
super important. Enfin, moi, je suis professeur, je dis toujours à mes élèves, vous êtes là pour vous tromper. C'est normal.
Et puis, il y a toujours la note, en fait. On travaille pour la note.
Oui. Ouais.
Et c'est le système qui est comme ça, mais c'est dommage parce que ça donne pas forcément envie d'apprendre en fait. Enfin, on veut apprendre pour avoir une bonne note, mais pas pour apprendre pour soi-même en fait.
Est-ce qu'au niveau scolaire, du coup, vous voyez des axes d'amélioration qui pourraient être faits pour cet apprentissage de l'anglais ?
Au niveau scolaire, ce qui pourrait être amélioré déjà, c'est la répartition des classes en plus petits groupes, faire des demi-groupes. Moi, je sais que quand j'étais au lycée, il y avait des groupes par classe. C'était pas la classe de seconde 10 qui était en cours d'anglais, il y avait une moitié de la seconde 10 qui était en anglais et l'autre moitié qui avait un autre professeur en même temps sur le même créneau. Mais c'était bien parce qu'on était justement 14-15 par niveau et on pouvait vraiment participer. Donc déjà, répartir un peu mieux les cours, que ce soit surtout en langue, faire des demi-groupes, pouvoir laisser l'opportunité aux élèves de s'exprimer, même aux étudiants, ça marche aussi dans le supérieur en soi, hein, faire des plus petits groupes, parce que là, dans mon groupe d'anglais, on est quand même 40. Malheureusement, on ne parle pas assez. On n'a pas l'opportunité de s'exprimer vraiment en anglais, que ce soit avec ses professeurs ou même avec des natifs, soit parce qu'on n'ose pas, soit parce qu'il y a cette contrainte de temps dans les emplois du temps des élèves.
Sur un cours de 40-45 minutes, être 40 par classe, ça laisse une minute si tout le monde participe, quoi. Alors que... déjà pour trouver ces mots et pour former des phrases, on n'a pas nécessairement le temps en 30 secondes ou même une minute de développer quelque chose et d'avoir le courage aussi d'apporter cette contribution à la classe. Donc effectivement, ouais.
Et du coup, je pense aussi axer sur l'oral ou peut-être faire des cours d'oraux et des cours où tu apprends à écrire pour un peu différencier et pas faire un peu des deux. Et ouais, effectivement... En fait, moins on est, mieux c'est, et que les profs interagissent vraiment avec les élèves, et peut-être même faire des travaux de groupe où les élèves doivent parler en anglais entre eux. Après, c'est compliqué, c'est à chacun de se gérer, mais ça peut être intéressant, je pense.
Une manière d'améliorer ça, ce serait plutôt de passer par la gamification de l'apprentissage, que ce soit autant pour les langues que pour les autres matières. Je pense que l'esprit est assez curieux par nature. Et c'est important de toucher à cette curiosité-là plutôt que d'être dans quelque chose de très scolaire, de très strict, de très codifié.
En fait, changer le format tout simplement. Enfin, plus faire un truc où t'écoutes pendant trois quarts d'heure le cours et après tu réponds aux questions. Plus vous parlez, vous débattez.
Généralement, dans les cours de langue que j'ai pu suivre, que ce soit en anglais, en allemand ou même en russe, on fait vraiment des débats. Et c'est ça qui, sur des sujets un petit peu clivants, et c'est ça qui entraîne les gens à donner leur opinion ou même réagir par rapport aux autres, même si tu n'as pas forcément le vocabulaire direct ou le vocabulaire approprié sur le moment ou un vocabulaire soutenu. Parce que justement, tu es dans l'action, il faut répondre rapidement. Et un dernier point, je dirais aussi, c'est d'avoir peut-être plus d'heures de cours de langue au sein de l'emploi du temps. Parce que si on fait... une ou deux heures de langue par semaine, bah, d'une semaine à l'autre, on a oublié déjà la moitié, quoi.
Je pense qu'en vrai, on a déjà énormément, je trouve, de cours par rapport à même aux autres pays. Donc, il faudrait peut-être changer. Du coup, c'est vraiment un problème structurel de l'éducation en général. Du coup, c'est un peu plus compliqué, quoi. Je pense qu'il faut plus d'heures d'anglais, en vrai. C'est tellement important et il faut axer justement l'éducation. Je ne suis pas ministre, mais il faut axer l'éducation sur l'anglais, je pense.
C'était quoi vos rapports, ou c'est quoi vos rapports, parce que la plupart sont en études ici, avec vos professeurs d'anglais? Est-ce qu'ils ont joué un rôle déterminant dans votre apprentissage ou justement, à l'inverse, dans votre dégoût de la langue?
Moi, je trouve qu'ils n'ont pas été très encourageants, forcément, surtout au lycée. Après, c'était pendant le Covid aussi, donc c'était différent. Mais j'avais une prof qui était vraiment nulle en terminale. Et franchement, elle m'a dégoûtée de la langue, quoi. Donc, c'était... Parce que sinon, au collège, j'aimais bien ça. Hein. Je faisais même anglais renforcé. Mais au lycée, vraiment, ça s'est dégradé. Et puis du coup, pour les études sup, moi, ça ne m'intéresse pas trop les cours qu'on fait. Donc, j'écoute partiellement, on va dire.
J'ai commencé mes années d'anglais avec une prof où c'était très compliqué. Ça n'allait pas trop entre nous, quoi. Je sais pas, il y avait un truc qui n'allait pas. Donc, forcément, commencer ces premières années d'anglais avec une prof, t'as pas envie de bosser en fait, t'as pas envie de travailler parce que, surtout je pense à cet âge-là, je réfléchissais pas au futur, je travaillais un peu pour soit les profs, soit mes parents quoi. Et du coup c'était compliqué, sachant que je l'ai eu 3 ans d'affilée, donc mes 3 premières années d'anglais, ce qui a compliqué la chose, mais heureusement j'ai réussi plus tard à apprendre l'anglais, à me remettre dedans, notamment en études sup. Je pense que les professeurs, notamment au collège, jouent des rôles décisifs sur après est-ce qu'on est bon ou pas en anglais.
Moi, du coup, c'était un peu pareil au collège. Mes profs d'anglais, ils étaient pas très bons, on va dire. Ils étaient vraiment pas encourageants. C'est vraiment le système de tu travailles pour tes notes, que t'apprennes ou pas, tant que t'as des bonnes notes. Et au lycée, du coup, j'ai une prof qui a été vraiment incroyable. Elle était tellement motivée, elle avait tellement envie de partager en fait son savoir que derrière ça m'a motivée à aller apprendre l'anglais et du coup en faire mes études supérieures quoi.
J'avais déjà une appétence pour la langue anglaise avant de rentrer en 6e, mais c'est vrai que les professeurs que j'ai eu au collège m'ont vraiment encouragé à poursuivre dans cette voie, même s'ils le faisaient pas directement, ils arrivaient plus ou moins à le faire indirectement. C'était vraiment très encourageant. Après, j'imagine que j'ai eu de la chance parce qu'il y en a qui n'ont pas eu cette chance là.
Mon parcours est un peu différent du vôtre parce que dès la primaire, en fait, j'ai été mise dans une école internationale. Ah oui. Et j'ai eu la chance, et je le reconnais, que c'est pas tout le monde qui a ça. Et du coup, d'avoir non seulement des cours vraiment où on était en anglais avec 2 jours par semaine où on était que en anglais et les seuls moments où on parlait français, c'était à la pause déjeuner ou à la récré. Et après, au collège et lycée, j'étais du coup à faire des cours de littérature en fait aussi. Et c'est ça qui a continué de maintenir cette langue-là. Et du coup, effectivement, les professeurs que j'avais étaient vraiment encouragés à partager leur amour pour la littérature, à partager leur amour pour la langue. Et du coup, ça encourageait tout le monde à le faire.
D'ailleurs, je vous le rappelle, EF propose des voyages linguistiques partout dans le monde pour parfaire l'apprentissage de son anglais. Et on ne voulait pas ressortir de cette collaboration sans rien vous proposer. Alors, on a demandé à EF et ils nous ont donné la possibilité de vous offrir un voyage. Vous aurez tous les détails en fin de vidéo. D'ici là, je vous laisse. À tout à l'heure.
Je regarde les films et les séries en version originale.
Je prends trop de temps à comprendre, même si je suis en anglais. Déjà, j'en regarde pas beaucoup. Je regarde pas trop de séries, pas trop de films, mais moi par exemple je vais beaucoup à des concerts, mais c'est tout le temps pratiquement des artistes français et francophones, parce que peut-être je comprends moins l'anglais et du coup je me retrouve moins par exemple dans les paroles, enfin je sais que j'ai pas mal besoin de me reconnaître dans les paroles etc. Donc mais non, je ne consulte pas de films ou de séries forcément en anglais.
Est-ce que les films et les séries c'est quelque chose qui vous a aidé dans votre apprentissage de l'anglais, plutôt au niveau personnel, du coup, comme je disais tout à l'heure?
Je suis assez d'accord sur le fait que ça aide énormément à apprendre. Après, moi, ce que j'aime beaucoup faire aussi pour apprendre les langues, que ce soit l'anglais ou l'espagnol, c'est lire la littérature en langue originale. Déjà, ça a plus de cachet, je trouve. C'est beaucoup plus joli de lire en espagnol Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez ou La chambre de Giovanni de Baldwin en anglais, plutôt qu'en français, parce qu'il y a toujours, même dans les séries, des écarts de traduction. qui sont quand même intéressants à analyser aussi. Mais c'est vrai que films, séries, livres, tout ce qui peut être lu ou vu en langue originale, je trouve ça intéressant de le faire en langue originale dans la mesure où je comprends.
Je trouve que ce qui m'a beaucoup aidé pour l'apprentissage des autres langues que l'anglais, c'était de regarder des films ou des séries avec les sous-titres dans la langue d'apprentissage. Donc si c'était un film en allemand, je regardais les sous-titres en allemand pour justement voir comment ça s'écrit aussi. Donc avoir à la fois l'écoute et la lecture en même temps pour savoir comment ça s'écrit et comment ça se prononce. Et éventuellement, bon, ça c'est peut-être un peu moi, et c'est vrai que c'est pas viable sur le fait de profiter et de regarder une série juste pour le plaisir, c'est aussi de noter le vocabulaire à côté que je connaissais pas, ou les tournures de phrases, ou ah tiens, ça c'est marrant, ils ont dit ça, en français ça aurait été autrement, ou quoi que ce soit. Donc ça c'est vraiment de l'apprentissage à la fois passif, parce qu'on reçoit quelque chose, mais aussi actif, parce que tu produis quelque chose, à noter ce que tu retiens du film, en fait.
Moi, à l'inverse, c'est plutôt on entend dans la langue originelle, et je vais mettre les sous-titres en français, parce que j'ai besoin d'entendre quelque chose pour le comprendre.
Mais ça a aussi son utilité, parce que du coup, tu comprends, tu peux faire les deux pistes en même temps, quoi, en fait.
Je pense que c'est hyper important de regarder ces films, je le conseille, de regarder ces films et séries en anglais, parce que c'est vraiment ce qui m'a aidé, c'est la chose principale qui m'a aidé en anglais. Et moi, c'est pas c'est anglais, sous-titré anglais, parce que justement, l'oreille, en fait, elle s'habitue. Et je sais pas, à un moment, les mots, ça va être bizarre dit comme ça, mais les mots, ils sortent un peu tout seuls, et les tournures de phrases paraissent logiques, parce que tu les as entendues, et parce que pour toi, ça paraît naturel, et du coup, c'est pas vraiment de l'apprentissage, c'est plutôt une manière ludique d'écouter de l'anglais et du coup de t'améliorer là-dedans.
Comme quand tu as appris ta langue maternelle, en fait. Comme quand nous, on a appris le français, et c'était juste par l'écoute, tu répètes ce que tes parents te disent ou ce que tu entends ailleurs, quoi. Donc,
J'ai déjà fait un voyage dans un pays anglophone.
Je n'ai jamais fait de voyage dans des pays anglophones. Je suis du sud de la France, donc c'était plus pratique d'aller vers le bas que vers le haut. Donc j'ai fait des voyages dans des pays hispanophones, russophones aussi, mais jamais dans un pays anglophone. Je suis jamais parti aux États-Unis, en Irlande, en Angleterre, en Écosse, peu importe.
J'ai fait pas mal de voyages dans des pays anglophones parce que déjà j'ai fait une colo en Angleterre quand j'avais à peu près 11 ans et j'avais des cours le matin. Ensuite, au collège, je suis aussi partie au studio Harry Potter à Londres avec ma prof d'anglais. C'était trop bien.
Trop stylé.
et sinon avec ma maman, parce que du coup ma maman pour le coup elle est très bilingue, elle a vécu plusieurs années en Angleterre et bon, elle ne m'a pas du tout inculqué ça, mais j'ai fait Dublin et Édimbourg. Et sinon, anglophone, c'est tout. Enfin, c'est déjà très très bien.
C'est pas mal. Non, moi sinon, j'ai pu voyager avec ma famille dans des pays anglophones, mais c'est surtout pendant les études sup où j'ai dû faire un stage à Dublin. Ça m'a permis d'être dans un environnement anglophone et en vrai, il n'y a rien de mieux pour apprendre l'anglais. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'y aller, et surtout se lancer quand t'as un niveau un peu bégayant, c'est pas facile. Surtout à Dublin, leur accent il est assez spécial. Mais voilà.
Moi pour le coup j'ai fait un peu toute l'Angleterre, toutes les villes principales, j'ai pu faire l'Irlande aussi, et j'ai été à Singapour. Donc
c'est trop stylé Singapour.
Ouais, c'est incroyable. L'anglais là-bas, en plus, c'est spécial parce que du coup, t'as plusieurs nationalités sur place. Donc, c'est hyper drôle d'entendre un Singapourien qui va te parler avec un accent indien, d'autres avec un accent arabe, etc. Donc, du coup, c'est assez stylé, ouais. J'ai une double culture, je suis franco-sri-lankaise. Les trois quarts de ma famille sont à l'étranger. Donc, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment beaucoup de mal à créer un lien, en fait, avec ma famille. C'est vrai que depuis que je suis partie et que j'ai commencé à apprendre l'anglais, vraiment m'intéresser à des langues, c'est là où j'ai vraiment pu me rapprocher d'eux, etc. Avant ça, c'était un blocage, donc j'arrivais pas à avancer, tu vois. Donc, là, c'est vrai qu'avec l'expérience, l'immersion, j'ai pu avancer, quoi.
J'ai commencé à voyager, mais c'était plus par des échanges linguistiques avec le collège ou le lycée. C'était des cours le matin et l'après-midi, on avait une activité. Donc, comme j'étais à l'île de Wight, c'était tout ce qui touchait à la voile ou tout ce qui touche à l'eau, en fait. Et c'était vraiment bien. Pour mes études supérieures, une fois que j'ai passé un bac OIB, j'ai décidé d'aller étudier au Royaume-Uni. Donc, j'ai fait ma licence de 3 ans là-bas. Tu as vraiment tous les accents qui sont là, et c'est une adaptation constante à la fois à ceux qui ont un accent français ou ceux qui ont un accent indien ou un accent de tous de partout dans le monde. Et c'est vraiment une expérience hyper enrichissante. À l'université, là-bas, il y avait des personnes qui avaient un niveau d'anglais un petit peu bancal. Et c'était très bien aussi parce qu'ils fournissaient l'effort pour s'améliorer. Et ça se voyait très, très rapidement. Alors que quelqu'un dans le système éducatif français ne progressera pas aussi rapidement, quoi. Donc,
Mais il n'y avait pas un niveau d'entrée pour aller à l'université ?
Généralement, oui.
Ouais.
Mais après, ça dépend des pays ou quoi. Donc, même s'il y a des conventions sur quel examen, par exemple, que ce soit le TOEIC ou Cambridge ou quoi, il y a des équivalences qui font que ce n'est pas nécessairement le cas.
Pour revenir à ça, moi, ce qui me bloque, parce que l'année prochaine, je vais aller en école de commerce, et justement, j'ai un peu regardé pour les échanges, et en fait, ils demandent un niveau d'anglais déjà très bon. Donc, c'est sûr que c'est plus
compliqué. Ça te décourage un peu.
Ouais, c'est ça. Et puis, c'est des concours, genre le TOEFL.
Ouais.
C'est vraiment un vrai niveau d'anglais. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire, je vais apprendre l'anglais, alors qu'on me demande d'avoir un niveau d'anglais qui est déjà très bien. Quoi. Mon niveau d'anglais était un blocage en études et même en général. Par exemple, pendant mon stage à Dublin, j'avais un niveau très faible. J'ai eu la chance de trouver ce stage. Mais en fait, j'avais le niveau trop bas justement pour vraiment profiter pleinement de mon expérience à Dublin. Et donc compliqué et même en vrai, à l'école, je postule en école de commerce et du coup, en vrai, on nous demande le meilleur niveau possible.
Oui, c'est ça, ça va, je comprends. Moi, j'ai postulé pour Erasmus 4UE+. J'ai mes affectations. Là, il me manque la deuxième partie. Normalement, je suis censé partir à Londres l'année prochaine. Il demande un niveau B2C. Donc j'ai dû passer le Cambridge là en urgence en février pour pouvoir leur attester que j'avais un niveau B2C. Hein. J'avais déjà le niveau B2 en 2019, mais je suis pas sûr que 2019 ce soit très très représentatif. Donc du coup j'ai dû repasser le Cambridge et c'est quand même assez onéreux aussi.
Ouais, c'est clair.
Les certifications en langue, que ce soit TOEIC, TOEFL, Cambridge et tout ce qui s'ensuit, c'est très cher.
Et puis non seulement c'est onéreux, mais aussi ça prend du temps à le préparer parce que c'est toujours faire et refaire les mêmes exercices. Ou au final, c'est pas nécessairement attester un niveau d'anglais, c'est juste attester le fait que tu peux coller aux critères du test en fait.
Et que tu as la certaine méthodologie.
Exactement, c'est ça.
Il s'agit juste que tu sois stressé le jour de l'éval de l'examen et tu perds tous tes moyens, t'es à niveau B1 alors qu'en réalité t'es à C1 quoi.
Certains d'entre vous ont suivi des cursus à l'étranger.
Moi j'étais partie pendant 6 mois avec EF du coup à Cambridge. Pour justement passer un diplôme, le diplôme de Cambridge. Moi, de base, j'étais partie juste après ma licence, parce que si vous voulez, j'ai fait une licence littérature anglaise pendant le Covid. Donc, c'était que des cours en Zoom, donc j'étais très très bonne à l'écrite, tout ce qui va être littéraire au final. Mais c'est vrai que dans le grand bain, j'étais vraiment mauvaise. Donc, je me suis dit, allez, go, je vais passer un certain temps là-bas. Du coup, moi, quand je suis partie, j'avais des cours soit le matin, soit l'après-midi, et le restant de la journée, on avait des activités avec EF, où moi, ce que j'avais fait de mon côté, c'est que je faisais beaucoup des visites personnelles, et sinon, je faisais partie d'une association locale à Cambridge, parce que j'avais beaucoup de temps libre, et je me suis dit, autant avoir une expérience aussi un peu de travail à l'étranger.
Tu parlais tout à l'heure du fait que c'était coûteux, de partir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu avoir des aides à des moments pour partir, justement ? Comment, selon vous, on peut faire pour que ce soit quand même un petit peu plus accessible, même pour des étudiants, de pouvoir partir comme ça ?
Oui, déjà, quand on part en Erasmus, on a toujours une bourse qui nous est offerte par l'État si on est boursier. Et il y a une bourse en plus, je crois, qui est offerte par la faculté où on est
d'origine.
Donc ça, c'est déjà très très intéressant, mais après tout dépend le pays où on part, parce que malheureusement, c'est pas échelonné en fonction de là où on part, c'est, je pense, tous les étudiants qui reçoivent le même montant. Donc ça aide, mais ça aide pas tout le monde. Et puis même ils le disent, j'ai reçu le mail hier avec marqué « prévoyez un budget personnel de votre côté ». Donc en effet, on est encouragé à partir, mais ça reste quand même un coût, ça reste une décision à ne pas prendre à la légère, parce que c'est soit 6 mois, soit 1 an, donc c'est quand même un laps de temps assez large. Rester 6 mois dans un pays étranger, c'est pas rien. Surtout, généralement, on n'est pas souvent très accompagné. Donc on y va soit seul, soit avec quelques amis, mais qui rencontrent les mêmes galères que nous finalement, puisqu'ils sont au même niveau que nous, étudiants Erasmus ailleurs. Mais oui, c'est un coût et il faut bien réfléchir avant de partir, même si c'est une expérience formidable. étudier à l'étranger, c'est toujours quelque chose de très formateur qu'on ne regrettera jamais.
Moi, j'ai fait un stage, c'est pas vraiment à l'étranger, mais c'était loin de chez moi. Je l'ai fait à La Réunion, c'était mon stage de deuxième année en communication. Et vu que j'étais logée par quelqu'un que je connaissais là-bas, c'était pas forcément super coûteux, donc c'est toujours un avantage de connaître quelqu'un là-bas qui peut vous héberger. Mais c'est vrai que moi, j'ai la chance aussi, ma maman, elle travaille à Air France, donc les billets d'avion, je les ai payés moins cher, par exemple, que le prix annoncé, on va dire. Donc voilà, il y a des petits avantages comme ça, mais après, ça dépend de chacun. Enfin, je sais que moi, j'ai eu la chance de partir. Dans ma classe, pratiquement tout le monde a fait son stage du coup à Nantes, parce qu'on habite à Nantes. Donc voilà, je pense que s'il y en a un l'année dernière, il a fait son stage à Londres aussi. Mais pareil, il m'avait dit que pour 2 mois, il en avait eu pour 3 000-4 000 euros, quoi.
Pour ma part, c'était vraiment faire un prêt pour justement payer l'école. Et je sais que il y a certaines banques qui proposent des prêts à taux zéro ou à taux très peu important pour des étudiants. Et ça, c'est génial parce que c'est un réel investissement sur l'avenir. Et il faut prendre le pari, en fait. Et ça, effectivement, c'est un risque qu'on a si on se dit que ça va être utile plus tard.
Est-ce que votre famille, votre entourage proche, est-ce qu'ils vous ont encouragé dans l'apprentissage de langue ?
Personnellement, oui. Mais ils m'ont pas mis dans une école d'anglais. Ils m'ont pas poussé à vraiment faire le maximum pour l'anglais. Mais ils m'ont quand même dit, c'est important, ils m'ont quand même un peu mis en garde. Après, je pense qu'il n'y a pas que le facteur familial, comme je disais avant, les profs, aussi nos fréquentations, enfin, avec qui on est. Si nos amis ne sont pas spécialement bons en anglais ou même en général, on aura tendance à être un peu comme eux, quoi.
Du coup, ma maman, elle est bilingue, elle a travaillé 5 ou 6 ans en Angleterre, elle était prof de français. Donc elle a un très bon niveau en anglais et c'est un peu un drame que ma petite sœur et moi du coup on n'aime pas l'anglais. Après ma grande sœur elle aime beaucoup l'anglais donc ça dépend vraiment des personnalités au final. Mais non je sais pas moi j'arrive pas, j'accroche pas et en plus elle regarde souvent une chaîne anglaise qu'on capte à la maison, enfin bref avec les satellites etc. Et moi quand j'entends ça en fait je pars quoi. Non mais je sais pas.
Ma famille m'a poussé un peu à avoir une appétence pour les langues. L'anglais c'est par moi-même parce que moi ma famille c'est pas du tout l'anglais. On est dans le sud de la France, j'ai une famille franco-espagnole donc c'était l'espagnol. Donc on prend l'espagnol en 6e. Du coup ça réduit le temps d'anglais mais ça fait 3 heures anglais, 3 heures espagnol. C'est bien, c'est un juste milieu. Mais plus tard quand j'ai continué mes études, ma mère a compris que, enfin ma mère ou ma grand-mère ou peu importe, ont compris que c'était important d'avoir quand même l'anglais, que ça pouvait aider dans la vie de tous les jours, que ce soit sur les notices où c'est pas toujours écrit en français, où il y a que de l'anglais. Donc ils m'ont dit « Ah, tu fais bien fait de continuer l'anglais ». Ils ont un peu tiré la tronche quand au lycée, je suis passé de la section euro-espagnol à la section euro-anglais. Mais ils s'en sont remis et maintenant ils en sont très contents.
Une question assez simple que je vous ai pas posée, c'est à quel point selon vous il est nécessaire aujourd'hui de parler anglais et quelle importance ça a pour vous de le parler ou de pas le parler? Et pour quelle raison ?
C'est limite un prérequis pour plein de travail, pour par exemple des alternances, des écoles, etc. C'est vraiment un prérequis quoi maintenant.
Ouais, c'est vrai que souvent on demande les certifications, les tests, les TOEIC, TOEFL, Cambridge, pour attester notre niveau de langue, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est vrai que maintenant c'est pas un critère, mais je pense que ça participe du fait si on va être sur le haut de la liste d'attente ou sur le bas quoi.
Je change d'école l'année prochaine, je vais dans une école de communication à Paris. Et pour les tests d'entrée, il y avait 4 épreuves et il y en avait 2, c'était en anglais.
Ah oui.
Donc voilà. Après, c'était un peu comme celui avec EF, du coup, une partie compréhension écrite et une partie compréhension orale. Mais après, c'était un niveau. C'était un peu le même niveau que celui de EF.
Donc il y avait un prérequis, il y a un prérequis.
Je sais pas comment j'ai été acceptée, mais non, mais je pense que c'est surtout pour la personnalité plutôt que pour le niveau d'anglais. Mais oui, mais pour l'alternance c'est hyper important. Enfin moi là je me rends compte, je suis en train de chercher. Après je veux travailler dans la musique et il y a beaucoup par exemple de labels. Ils demandent du coup pour communiquer en anglais avec d'autres labels, etc. Donc voilà c'est hyper important.
Je pense que ça dépend aussi du secteur d'activité et si on est amené à travailler avec l'international ou vraiment national. Parce que dans tous les secteurs, dans tous les domaines, que ce soit autant être avocat, que ce soit dans le commerce, dans le marketing ou autre, on peut être amené à travailler uniquement avec, entre franco-français, quoi, en fait. Donc, l'anglais, ça n'a pas nécessairement d'intérêt, mais effectivement, c'est toujours aller vers l'international. Et avec tout ce qui touche à la mondialisation, c'est l'un des prérequis qui existe.
Pour tester leur expression orale, on a décidé de leur donner une scène de film à jouer. C'est parti.
I want you to draw me like one of your French girls wearing this.
All right.
Wearing only this. The last thing I need is another portrait of me looking like a porcelain doll. As a paying customer, I expect to get what I want.
Over on the bed, the couch. Put the other arm up, the hand right by your face there. Right, no, head down. Eyes to me, keep them on me, and try to stay still.
I believe you are blushing, Mr. Big Artist.
Parfait. Bravo. Est-ce que tout le monde a deviné de quel film la scène est tirée?
Je ne dirais Titanic.
Ouais.
Wow, c'était Titanic, c'était la scène du dessin.
Donkeys don't purr. What do you think I am? Some kind of a...
Haha, fear me if you dare.
Hey look, a little cat.
Look out, he's got a piece.
It's a cat, donkey. Come here, little kitty, kitty. Come on, little kitty. Come here. Oh, come here, little kitty. Oh, wow.
Hold on, I'm coming.
Come on, oh, get it off. Oh, get it off. Oh, God. Oh, no. Oh, ow. Donkey.
Look out, Shrek. Hold still.
Get it off.
Hold still. Did I miss?
No, you got them.
Now, ye ogre. Pray for mercy from puss in booth.
Oh, I killed that cat.
Ha ha ha. Herbal.
Oh, that is nasty.
What should we do with him?
Take the sword and you to him. Give him the Bob Barker treatment.
Oh, no. Por favor. Please, implore you. It was nothing personal, senor. It was doing it for my family. My mother, she is sick, and my father lives out of garbage. The king offered me much in gold, and I have a litter of brothers.
Oh.
Parfait.
Bravo.
Est-ce que quelqu'un a deviné de quel film cette scène est tirée?
Shrek.
C'était Shrek.
Et maintenant, ils vont devoir se classer.
En meilleur anglais que ce que je pensais, toi.
Ouais.
Prêt à intervertir les deux?
Non, je pense pas.
Je suis ouvert. Hein.
Ouais.
Ah ouais, peut-être les deux?
Là.
Nous deux?
Oui, vous deux. Peut-être.
Vas-y, moi, ça me va.
Je sais pas.
Mais je pense vraiment pas.
Après, on va faire ça en démocratie. Je suis pas seul à décider, donc décider aussi. Mais.
Allez, on échange. Au moins, ça change.
Allez,
ça fait quelque chose.
Bah oui.
Pour cette dernière épreuve, expression orale, les participants ont dû écrire un texte en anglais sur la question suivante. Où iriez-vous si vous partiez en voyage linguistique?
As a student, I would like to go to London next year because London is a city that I would love to discover from my childhood. I always wanted to go to London and it will maybe possible. It will be possible, I hope so, next year with the Sorbonne, where I am at the university. And it will be cool to go to London to realize my dream.
I really approve of the London choice because that's where I studied for my undergrad. But I would really love to go to another country or rather another continent where I haven't been yet. So probably like North America, whether it's the US or Canada, or even go as far as going to like New Zealand or Australia, because that's like an entire new world and so many different things. It's like the other end of the world, literally. So I really love to go and discover all the landscapes, all the like, get tested with the different accent, because like Aussie accent is like pretty darn hard to understand. But yeah, so probably either North America or Oceania, I suppose.
I really like to visit Singapore. Because I think it's a really interesting country, as you said before. And why? Because there are a lot of accent, of different accents, and to improve my English is very interesting. And of course, it's a beautiful country, I think, and it's known as an important country in finance and everything consulting. So for my my school is very interesting.
If I went on a language trip, I would like to go to Los Angeles. I would like to find out more about American culture and the way of life of Californians. Moreover, I could take lessons in English in order to continue my language skills.
If I had to go somewhere, I would say I would go to Vancouver, which is in Canada. I'm really interested in Canada because I like the cold weather. I'm not a summer girl. So I really want to visit because it's a nice city. I heard that the nature is amazing there. So I'd probably say Vancouver.
C'est la dernière fois qu'ils peuvent se classer. Vont-ils faire le bon choix?
Sauvez-moi, s'il vous plaît.
Moi, je pense vraiment qu'il est meilleur que moi. Je pense qu'il
reprend ta place si tu veux.
Allez.
Bon, bah, du coup, après ces nombreux échanges, voici le classement final que vous avez déterminé. Je pense que ce qu'on attend tous, c'est de savoir quel est votre réel niveau. Vous avez tous normalement passé un test. C'est un test que EF a créé, qui du coup va vous donner votre niveau sur le niveau qu'on connaît tous, le niveau européen. Je vais vous laisser du coup dans l'ordre du moins bon au meilleur révéler votre niveau.
A2.
C1.
C1.
B2.
Et C2.
Il y a des petites modifications, du coup, il y a des petits changements. C'est assez différent.
Pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui?
Je pense que c'est important parce que justement, on le voit avec certains profils comme quoi l'anglais est nécessaire, mais il faut quand même qu'on se force à le faire. Et par nos expériences, on a pu justement débattre un peu sur pourquoi c'était important pour nous de voyager, d'apprendre une langue, etc.
Par rapport à ce niveau-là, vous, est-ce que vous pensez que c'est justement que ça reflète réellement votre niveau déjà? Et puis par rapport au classement que vous en avez fait, il y a quelques changements. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Moi, j'ai eu C1 du coup et je suis placé, apparemment pas au meilleur niveau. Mais non, je pense que C1, ça surperforme un peu mon niveau réel. Après, c'est vrai que je me suis mis à l'anglais intensivement un peu cette année justement pour les concours d'école de commerce. Donc c'était un peu le même type de test. Donc c'est clair que ça aide. Sinon, c'était vraiment intéressant parce que du coup, confronter des idées de 4 personnes qu'on connaît pas sur un sujet qui est important comme l'anglais, j'ai trouvé ça enrichissant. Justement, de pas savoir un peu le niveau des gens, ça permet justement de faire attention à comment ils parlent, avec les petites activités. Et... Donc non, c'est vraiment intéressant et bien pensé.
Et toi, du coup, t'as eu un niveau B2. Là, on t'a classé comme étant le deuxième meilleur. Qu'est-ce que t'en penses?
Ça dépend vraiment, je pense que ça dépend vraiment des circonstances. Je prétends pas que j'ai un niveau supérieur à B2, je dis pas que j'ai un niveau B2, je sais pas où est-ce que je me situe. Tant que j'ai pas de résultat officiel, je sais pas où est-ce que je me situe. Honnêtement, je suis plutôt content de ma performance, puisque le test, que ce soit côté compréhension, compréhension écrite, ça s'est plutôt bien passé. Compréhension orale, ça a été autre chose. Après, je l'ai fait ce matin aussi à 7h du matin en me levant, ça explique peut-être pas mal de choses. Après, je pense que des tests comme ça, c'est vraiment pour donner un niveau à un moment précis. Je pense que c'est pas représentatif, que ce soit A2, C1, C1 et C2. Je pense que ça va être mené à bouger tout au long de tout au long de notre vie, tout au long de notre pratique. Et vers le B2, je l'ai eu il y a quand même 5 ans, en 2019. Ça commence à remonter un peu. Mais après, je sais pas du tout où est-ce que j'en suis. Et je trouve que c'est très difficile de se situer sur une échelle. Moi, j'en ai appris pas mal de choses. Quand on s'exprime en langue étrangère, ça reflète pas forcément le niveau qu'on a. On a bien pu le voir du coup à la fin quand il y a eu la révélation des niveaux par rapport au test d'EF. J'ai trouvé ça super intéressant et puis même dans la globalité des choses, on a pu, même quand on a fait le petit speech sur là où on voudrait aller, ce qui était bien, c'était que justement, on arrivait tous plus ou moins à s'exprimer correctement ou pas correctement, mais on était compris. Donc c'était vraiment super intéressant, puis même juste de découvrir au fur et à mesure le parcours de chacun autour de la scène alors que on se connaît pas, c'est super intéressant.
Et tu vois, dans ce que tu as dit, moi il y a quelque chose que j'ai retenu, c'est que plutôt dans la vidéo tu t'as dit que t'étais pas parti dans un pays anglophone et là la difficulté que t'as peut-être éprouvée pendant le test, c'est la compréhension. Peut-être que une chose qui pourrait te permettre à l'avenir justement de pallier à ce manque serait justement de partir dans un pays anglophone, quel que soit le cadre, mais en tout cas d'y aller pour t'adapter et t'habituer peut-être à d'autres accents. Donc vraiment une mise en situation, ça pourrait correspondre. Et donc du coup, niveau C2,
ouais.
Meilleur niveau.
Ouais, c'est le résultat que j'avais eu aussi au Cambridge, donc c'est logique. Et c'est pas une surprise, mais effectivement, comme je le disais précédemment, plutôt dans la vidéo, revenir en France après avoir passé 3 ans en Angleterre, non seulement j'avais oublié plein de choses en français, donc faire des erreurs grammaticales, c'est mon quotidien, remplacer des mots en anglais, c'est aussi le cas, à mon grand dam, parce que j'aimerais bien parler des langues qui soient vraiment pures, si on veut, dans le sens où on ne fait pas d'erreurs ni dans l'une ni dans l'autre. Mais pareil, mon niveau d'anglais a aussi pas mal baissé, enfin, baisser dans le sens où ce qu'on étudie à l'université, c'est plus du scolaire plutôt que de quelque chose d'appliqué, en fait. Donc, ça change aussi.
Ouais, tu pratiques moins aussi,
au
quotidien.
C'était vraiment une expérience intéressante. On peut se donner les moyens de partir à l'étranger, on peut se donner les moyens d'apprendre une langue par ses propres moyens, même sans nécessairement dépendre d'un système éducatif qui peut correspondre ou qui peut ne pas correspondre, parce que ça dépend des profils, ça dépend de si on est intéressé, ça dépend de si un prof nous a fait aimer la matière ou quoi, peu importe la matière d'ailleurs. Et c'est vraiment ça le message à ressortir, c'est que on peut continuer à apprendre les langues et on peut continuer à partir, et c'est pas ça qui va nécessairement nous bloquer.
Et du coup, le niveau... alors, c'était quoi? C'était
A2.
A2.
Bah, moi, ça ne m'étonne pas. Mais en fait, c'est que les bases, je les oublie tout le temps. Et du coup, y a des mots hyper simples que j'oublie. Et je pense que c'est aussi pour ça. En fait, mes bases ne sont pas solides. Et je ne peux pas construire quelque chose sur des bases pas solides, je pense.
Mais
la compréhension orale aussi, c'était un peu compliqué. Enfin, en fait, j'entends des mots et tout, mais je ne sais pas si c'est le bon sens que je comprends ou pas.
Ok. T'as le désir quand même de progresser, j'imagine.
Ouais, carrément. Mais surtout que j'en ai vraiment besoin de progresser. Donc, c'est vrai que là, je sens que pour l'alternance, ils demandent à chaque fois vraiment un niveau en anglais. Et du coup, il va falloir que je travaille plutôt sur ça. Mais pour l'instant, on m'a pas dit non, t'es nul en anglais. Vraiment, n'y va pas.
Il y a peut-être une chose qui va t'aider à progresser. En gros, dans le cadre de la vidéo, c'est une vidéo qui est sponsorisée du coup par EF. Et EF, ça permet justement à des étudiants et à plein de personnes de voyager et de partir en immersion. Comme tu as le niveau le plus faible, c'est pas dramatique en soi, mais nous, on va essayer de te faire progresser. Donc, tu vas avoir la chance de partir en immersion à l'étranger avec EF grâce à ton niveau d'anglais, justement.
Merci beaucoup.
Et voilà, l'objectif, ça va être de te permettre d'aller chercher du B1, du B2.
C1.
et du C1 aussi. Là, ce qui est bien, c'est que le fait de partir en immersion, voilà, tu vas être vraiment plongé dans un environnement où autour de toi, ça va parler anglais. Donc voilà,
c'est
trop cool,
vraiment,
trop cool.
Je suis trop contente. Bravo. Je suis super contente, forcément. J'espère que ça va me permettre de progresser en anglais. J'ai trop hâte, ça va être trop bien.
Merci à tous les participants d'avoir joué le jeu dans cette vidéo. Je sais que c'est pas parfois facile de parler en anglais quand on le maîtrise pas trop. Merci aussi à EF pour leur confiance et nous avoir aidés à la mise en place de cette vidéo. Merci aussi d'avoir proposé un voyage à Mélodie. Merci aussi à EF d'aider dans l'apprentissage de l'anglais en proposant des séjours linguistiques, mais aussi de nous avoir fait confiance et de nous avoir aidés dans la mise en place de cette vidéo. On les remercie aussi de proposer deux séjours linguistiques. Je vous en parlais en milieu de vidéo. EF fait gagner à l'un d'entre vous un séjour de 2 semaines dans leur école à Malte. Et ça pour parfaire votre apprentissage de l'anglais. Vous avez toutes les informations en cliquant sur le lien dans la description. Pour savoir qui partira, on procédera par tirage au sort. Dans tous les cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, salut.